Radio de la Paix, il est 7h. Le journal du 7h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix en ce jeudi 2 mai 2024. À la une de ce 7h, célébration de la fête du travail. Les centrales syndicales reçues hier à la primature ont mis en avant la question de la cherté de la vie ainsi que l'application du salaire minimum dans le privé et le secteur agricole lors de ces discussions. Et puis le degré de satisfaction des clients des services de transport public abidjanais a été scruté récemment par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan Amuga. Les résultats de cette étude dans le compte-rendu de Mata Touré au cours de ce journal. Dans l'actualité sur le continent, le Fonds monétaire international va accorder 120 millions de dollars de financement d'urgence au Mali. On en parle dans cette édition. Et pour savoir ce que disent les unes de vos quotidiens ivoiriens parus en ce 2 mai, vous aurez la revue des titres préparée par Ghislain Koulibaly. Dans l'invité de la rédaction, pour terminer, Jean-Claude Mabéa recevra le chef de la mission résidente du Fonds de solidarité africain en Côte d'Ivoire. Ali Guindo présentera son institution et dressera le bilan de la 30e session ordinaire de son conseil d'administration tenue récemment à Abidjan. Voilà pour le sommaire. La cherté de la vie, les déguerpissements à Abidjan et les conditions de vie et d'activité des travailleurs ont été les principales préoccupations des centrales syndicales hier 1er mai 2024 à la primature. C'était en présence du chef du gouvernement Robert Begré Mambé. Junior Cardin y était, voici son compte-rendu.
C'est sous une pluie battante que la fête du travail 2024 a été célébrée dans les jardins de la primature. Les 5 centrales syndicales ont tour à tour pris la parole. Au nombre des préoccupations récurrentes, la cherté de la vie. Kofi Assiné, 3e secrétaire général adjoint de l'UGTCI.
Une récente étude menée par Nubeo révèle que sur 24 pays en Afrique, la Côte d'Ivoire se classe en tête en matière de cherté de la vie. Le pouvoir d'achat reste très faible, avec un indice de 8,54 comparativement à l'Éthiopie, 43,14 et au Sénégal, 44,08.
Les déguerpissements à Abidjan ont attiré l'attention du président de la centrale Dignité, Elie Bogadago.
Les déguerpissements des habitants d'un certain nombre de quartiers à Abidjan, ces derniers temps, de par leur caractère et la méthode utilisée, ont provoqué de vives émotions au sein de toute la population ivoirienne. Les enfants dont les écoles ont été démolies assistent à une véritable humiliation de leurs parents, chose qui sera à jamais gravée dans leur mémoire.
Le Premier ministre Begré Mambé a partagé l'engagement résolu du gouvernement à mieux faire pour les travailleurs.
Nous avons écouté attentivement vos revendications et nous pouvons vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner pour que les travailleurs de Côte d'Ivoire aient un emploi décent, puissent vivre dignement et s'assurer des jours plus heureux. Non seulement en activité, mais également à la retraite, dans un cadre de vie approprié.
Begré Mambé a exhorté tous les ministres à faire davantage dans leurs secteurs respectifs pour améliorer le bien-être des travailleurs. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a été invité à engager toutes les réformes à cet effet.
Merci à vous, Junior Cardin. On parle à présent d'environnement. Top départ pour la 6e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, JIFAC. Le lancement a eu lieu vendredi dernier au cœur de la réserve naturelle d'Aliafleur, sise à Cocody-Abata, sur la route de Bingerville. Cette année, le thème est « Renforcement de la mobilisation des financements climatiques pour une transition écologique réussie ». Autorités gouvernementales, institutions internationales et plusieurs environnementalistes y ont pris part. Le compte-rendu est signé Ghislain Koulibaly.
La Direction générale des parcs et réserves souhaite la bienvenue à la délégation au pied du plus gros bambou de Dahliafleur.
Les bambous, ils sont de la famille des poacées, qui est une sous-famille des graminées. Ce sont des herbes en fait en général.
C'est le but, on a été très heureux de vous accueillir à Dahliafleur. Dahliafleur, c'est le deuxième poumon vert d'Abidjan.
Cette année, l'accent est mis sur le financement vert. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA nous partage son expérience dans ce domaine par la voix de son directeur, Adsin Yao Léon.
Depuis notre accréditation au Fonds d'adaptation en 2020, c'est un peu plus de 2 337 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par notre institution auprès des différents guichets climatiques pour le financement des activités d'adaptation, mais surtout de formation des acteurs nationaux sur les thématiques de la finance climatique.
Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique se réjouit des acquis des dernières éditions des GIFAC. Toutefois, il insiste sur l'urgence. Jacques Assaoré.
Selon le rapport national de la Banque mondiale sur le climat et le développement, les impacts du changement climatique pourraient faire baisser le PIB réel de notre pays de 13% d'ici 2050 et empêcher 1 630 000 personnes d'échapper à la pauvreté.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les enfants du groupe scolaire Lamine Fadiga d'Abobo ont touché les consciences à travers leurs prestations théâtrales.
Non à la déforestation et oui au reboisement.
Les GIFAC 2024 s'étendent cette année aux villes de Béoumi et de Kong.
Notons que la réserve naturelle d'Aliafleur est le deuxième poumon vert de la ville d'Abidjan après la forêt du Banco. Avec la Sodexam en partenariat avec l'Organisation météorologique mondiale, eh bien, ces deux structures ont organisé dans le cadre du projet de gestion de la sécheresse et des inondations du bassin de la Volta un atelier national avec les médias les 25 et 26 avril dernier dans la commune de Cocody. Le thème retenu pour cet atelier était diffusion des alertes précises et sensibilisation sur les événements extrêmes météorologiques et hydrologique dans le bassin de la Volta. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Ouzoué Kouakou Justin, chef de service à la direction de la météorologie nationale, est revenu sur l'objectif principal de cet atelier national avec les médias.
Chaque jour, nous observons les phénomènes extrêmes tels que l'inondation et la sécheresse. Pour pouvoir s'adapter à ces effets néfastes des changements climatiques, l'une des mesures, c'est de porter l'information climatique aux populations afin de renforcer leur capacité de résilience et de protéger leurs biens. Comme objectif, c'est de permettre aux médias de relayer l'information météorologique qui est produite, de mieux les comprendre, de les rendre accessibles aux populations afin qu'ils puissent comprendre le contenu et prendre les dispositions qu'il faut.
Après 2 jours d'intenses ateliers, certains journalistes interrogés nous font leur retour d'expérience.
Romain Brissy, vice-président de OJPCI. La rencontre nous a permis de comprendre qu'en réalité, que la Sodexam, quand elle annonce, ça s'est fait effectivement, mais ils ont un problème sur notamment la manière de donner l'information.
Je suis Dorcas Capeu. Au terme de cet atelier, j'ai pu comprendre qu'en tant que média, en ce qui concerne la diffusion des alertes et la sensibilisation des événements liés à la météo et au climat, nous avons un rôle important à jouer. J'ai aussi appris les techniques à utiliser pour interpeller les populations.
Les experts de la Sodexam, de l'ONPC et de la Direction générale de l'hydrologie ont durant ces 2 jours outillé les hommes de médias à la diffusion d'alertes précoces et à la sensibilisation dans le cadre du projet du bassin de la Volta.
Nous vous le disions, titre, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan Amuga a organisé un atelier de restitution des études de satisfaction clientèle des services de transport public non conventionnés dans le Grand Abidjan. Le degré de satisfaction des clients des services de transport public Abidjan, notamment l'accueil, le service aux caisses, l'innovation, le professionnalisme, la ponctualité, la régularité, la qualité du matériel roulant, hein, ont ainsi été passé au peigne fin. On en sait donc un peu plus avec Mata Touré.
Alors que d'importantes réalisations sont en cours dans les différents secteurs du transport en Côte d'Ivoire, l'objectif général de cet atelier était de présenter les résultats des enquêtes et de formuler des recommandations visant à accroître la performance des opérateurs vis-à-vis des usagers. Fanny Jean est le directeur de la contractualisation et du suivi de l'exploitation à Amuga.
L'objectif de l'atelier est de partager avec les acteurs eux-mêmes les conclusions de l'étude qui a été menée, essentiellement avec eux-mêmes parce qu'ils nous ont la plupart du temps aidé à avoir accès à leur gare, à avoir accès à leur site d'embarquement pour pouvoir administrer le questionnaire aux usagers. Sur la durée des déplacements des usagers, sur leur appréciation de la sécurité, leur appréciation du confort dans les véhicules, leur appréciation globale des infrastructures de transport.
La MUGA a mis en place un cadre permanent de concertation avec tous les acteurs de transport public évoluant dans différents modes de transport urbain du Grand Abidjan. Tapé Albert César est le secrétaire national exécutif des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Il se dit d'ailleurs très satisfait de cette démarche.
Ce qui a été dit, ça va nous permettre quand même d'améliorer quand même le travail, puisque bientôt nous allons rentrer dans le transport digital. C'est un peu normal qu'on sache vraiment ce qui est en place, d'abord l'existant, pour que véritablement on passe vraiment à la modération du transport.
À l'issue de cet atelier, des résultats des enquêtes ont été présentés, ainsi que des recommandations formulées visant à améliorer les services offerts aux usagers.
On prend la direction de Korogo où le comité régional du Poro du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT, a organisé le 26 avril dernier dans la salle de conférence de l'antenne locale de l'AIBF un panel autour du thème « L'école transformatrice ». Et ce, à la faveur de la célébration de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2024. Suivons la correspondance de Tommy Corona.
Yacouba Ouattara, président du comité régional du réseau ivoirien pour la promotion de l'école pour tous, RIP-EPT, nous donne un aperçu des thématiques de la région en lien avec le thème de cette année.
Le thème général, c'est l'école transformatrice. Au niveau de la région ici, il s'agit simplement de voir un peu comment l'école peut enraciner, n'est-ce pas, nos enfants là dans la culture. Vous n'êtes pas sans savoir que Korogo est une ville fortement culturelle. Donc comment on peut donc promouvoir l'école en enracinant les enfants, n'est-ce pas, de la région. Les gens donc dans leur culture. Comment prendre en compte de façon locale la notion de l'école inclusive?
À l'entendre, les différentes communications ont permis aux uns et aux autres de mieux comprendre les attentes.
L'objectif de cet atelier-là, c'est de les amener à comprendre les réalités profondes donc de l'éducation en région pour qu'ils se recadrent, entre guillemets, au niveau donc de la planification pour avoir un regard plus approfondi donc par rapport à l'école.
Une cérémonie ponctuée, entre autres, par des panels animés par le conseil régional, la mairie et la Direction régionale de l'éducation nationale, Lépien Koulibaly de la mairie.
Chaque année, la mairie construit et équipe en table banc des salles de classe, aussi bien au niveau des écoles primaires que maternelles. Elle construit aussi des latrines et des bureaux. La mairie a créé une commission chargée de l'éducation.
Notons que l'édition de cette année marque le lancement du 25e anniversaire de la campagne mondiale pour l'éducation. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
Et puis restons toujours dans le volet éducation, les 4996 enseignants volontaires omis de Côte d'Ivoire de la crise de 2022 ne sont pas contents du fait du retard de leur intégration à la fonction publique. Ils l'ont fait observer lors d'une conférence de presse ce week-end à Mans. Témoin pour Radio de la Paix, Stéphane Adams.
Homme de médias était présent à cette conférence pour écouter les différents délégués régionaux des enseignants volontaires omis de Côte d'Ivoire liés à leur situation actuelle. Moukassa Sow est le secrétaire général de l'Union.
Nous sommes réunis ce jour pour nous faire entendre, pour redonner vie à notre plaidoyer, donner vie à notre doléance. Vu que tous les anciens fonctionnaires avaient quitté les écoles, les villages, même les villes, nous avons jugé bon d'encadrer nos petits frères laissés pour compte afin d'éviter le génocide intellectuel. C'est pour nous aujourd'hui l'occasion de faire une doléance au président de la République afin de se pencher sur la situation des anciens volontaires omis que nous sommes. C'est difficile que nous vivons au quotidien. Il faut dire que bon nombre sont chassés des maisons qu'ils occupaient, ont perdu leurs enfants parce que quand ils sont malades et qu'ils sont dans les hôpitaux, qu'ils n'ont pas les moyens, il n'y a rien à faire. C'est vraiment très très difficile pour nous.
Vu ces doléances, le président national de l'Union des enseignants volontaires omis de Côte d'Ivoire, Bamba Lanciné, dresse ce tableau suivant.
Ceux qui ont participé au plan de sauvetage l'année 2002, il y avait au moins 10 090 enseignants volontaires. Sur les 10 090, il y a 5 084 qui sont rentrés exceptionnellement à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Et il reste aujourd'hui 4 996 qui sont sur le carreau. Ça fait 22 ans d'attente. Nous avons fait cette conférence de presse pour attirer l'attention de l'exécutif, c'est-à-dire son excellent M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, afin qu'il puisse se pencher sur ce problème crucial qui a trop perduré, qui perdure toujours. Ils ont fait quoi, président de la République, que ce problème est déjà clos. Pourtant, c'est à chiffon. Nous sommes encore là.
Toutes les démarches auprès de la tutelle sont restées sans suite, a-t-il indiqué Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Dans la l'actualité dans la sous-région, le Fonds monétaire international FMI a annoncé mardi dernier avoir signé un accord avec les autorités maliennes de la transition en vue d'apporter la somme de 120 millions de dollars de fonds d'urgence au pays, ce qui équivaut à 73 485 600 000 francs CFA. Combler le déficit immédiat et urgent de la balance des paiements du Mali, c'est l'objectif de cette facilité de crédit du FMI et ces 120 millions de dollars sont censés soutenir la fourniture de nourriture et les transferts d'argent ciblés aux personnes confrontées à l'insécurité alimentaire ainsi qu'aux dépenses d'éducation, de santé et d'accès à l'eau potable. De retour ici dans le studio de Radio de la Paix, nous retrouvons Ghislain Koulibaly qui s'est chargé pour vous de parcourir les unes des journaux ivoiriens parus ce jeudi. C'est dans la revue des titres. Bonjour Ghislain.
Bonjour Linda.
Alors que disent nos unes, les unes des journaux ivoiriens?
Alors bonjour à toutes et à tous. Il y a une pensée de Bernard Dadier qui nous vient à l'esprit ce matin et je cite « Le travail, après le travail, l'indépendance, mon enfant, naître à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. » On va s'appuyer sur cette citation pour revenir sur la célébration de la fête du travail qui a eu lieu hier. Certains journaux ce matin reviennent sur la cérémonie officielle qui s'est tenue à la primature, dont vous parliez justement dans cette édition. Comme à l'accoutumée, c'est le moment idéal pour les centrales syndicales de faire des revendications. On peut donc lire chez Soir Info plusieurs revendications et un ultimatum lancé au gouvernement. L'Inter nous fait savoir également que la plateforme nationale et l'intersyndicale posent leurs préoccupations. Des requêtes et doléances prises en considération par le gouvernement ivoirien, à en croire l'avenir qui barre à sa une, Beugré Mambé rassure les centrales syndicales. Le journal pointe également la cartographie des préoccupations, besoins et aspirations dont de tous les travailleurs au cœur des priorités du gouvernement. Puis il y a ce message du Premier ministre qui a retenu l'attention du confrère Le Matin. En travaillant main dans la main, nous réalisons des progrès significatifs. Et Linda, ça travaille aussi fort dans le domaine politique. On voit que la presse s'intéresse à certaines actions entreprises ou à des événements à venir. Le Rassemblement nous plonge dans les préparatifs de l'hommage au président Ouattara à Agouville, en titrant « À 48 heures de l'hommage, le Mercure monte dans l'Agnébi Thiassa. » L'essor sur le même sujet annonce déjà Agouville en ébullition, précisant que Pierre Demba est au four et au moulin. Le journal Le Temps nous donne la couleur du temps au PPACI où se prépare une grande convention le 10 mai. Le quotidien nous explique ce qui se passe dans les fédérations et comment les femmes du PPACI vivant en France se préparent. Et en France, le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, a rencontré récemment des grands du business mondial, nous dit le Nouveau Réveil, citant Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis Group, Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, et Jim Breuer, l'un des grands investisseurs de la Silicon Valley. La petite note environnementale de cette revue concerne l'érosion côtière, Linda. Ce phénomène s'accentue avec la montée marine et le réchauffement climatique. Fraternité Matin nous informe qu'un ouvrage de protection du cordon sableux est annoncé à Grand Laou. Un brin d'humour pour terminer avec le journal satirique Biche qui affiche « Femme au foyer, servante, la guerre est déclarée
». C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive bien ces sûr. Derniers jours. Merci à vous, Ghislain Koulibaly, pour cette revue des titres. Nous pourrons vous retrouver dans l'édition de 8h pour le même exercice. Dans l'invité de la rédaction, ce jour, le chef de la mission résidente du FSA, le Fonds de solidarité africain en Côte d'Ivoire, est l'invité de la rédaction. Ali Guindo présente son institution et dresse le bilan de la 30e session ordinaire de son conseil d'administration tenue les 4 et 5 avril dernier à Abidjan. Il répond aux questions de Jean-Claude Mabéa.
Monsieur Ali Guindo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de mission résidente du Fonds de solidarité africain. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment se porte votre fonds au niveau national?
Alors, je voudrais vous dire que le fonds va très bien, il se porte très bien. La preuve, c'est que depuis quelques années, le FSA a entamé un cercle, disons, une piste vertueuse qui fait que d'année en année, il s'affirme en sa qualité de leader du métier de la garantie. Pour rappelle, le FSA, c'est une institution financière internationale qui est spécialisée dans le métier de garantie financière. À ce titre, nous accompagnons le financement des entreprises nationales en confortant les bailleurs par un partage de risques. Le schéma, il est simple, c'est que vous pouvez avoir un projet qui est bon, mais le promoteur, il peut être buté à un problème de garantie. Nous, après analyse, si nous estimons que tous les risques sont identifiés et mitigés et que le projet est viable, nous disons au bailleur, allez-y financer. Si le risque se réalise, nous, on paye. Aujourd'hui, pour preuve de la solidité et de la santé du FSA, c'est une institution qui est certifiée ISO 9001 version 2015. C'est une institution qui est notée par Moody's Baa1 avec perspective stable.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire que c'est une institution qui a les moyens de ses ambitions, en ce sens que si nous nous engageons pour dire à un bailleur de fonds, allez-y financer, si le risque se réalise, nous payons cash, c'est que nous avons les moyens de tenir cet engagement. Et c'est ce qui conforte les bailleurs. Et si l'on considère le fait que dans nos pays, 80 à 90% sont des entreprises sont constituées de PME-PMI. Et ça, c'est le segment le plus difficile à financer par les bailleurs de fonds, ne serait-ce que pour l'absence d'informations jugées crédibles. Donc, ça veut dire que en ce moment, nous, on intervient pour faciliter le financement de ces entreprises qui sont celles qui sont vraiment créatrices d'emplois, qui sont génératrices d'une bonne part du PIB et qui, en quelque sorte, contribuent à la sérénité sociale de nos États.
Quelles sont les performances financières que vous avez pu réaliser entre 2022 et 2023?
2022 et 2023, déjà, je voudrais dire qu'à l'échelle de ses États membres, le FSA a donné environ 800 milliards de garanties. En 2022, déjà, le FSA a donné 746 milliards de garanties aux bailleurs de fonds pour financer les entreprises nationales. Ce montant est passé à 824 milliards en 2023. Imaginez que le taux de garantie maximum du FSA peut atteindre 80% en principal du montant du prêt. Donc si je prends un taux moyen, ne serait-ce que de 50%, le taux de garantie donné, ça voudrait dire que en 2022, le FSA a permis de mobiliser environ 1 400 milliards de francs CFA en faveur des entreprises. Et ce montant est passé à plus de 1 600 milliards de francs CFA de financement accordé aux entreprises. Ce qui a permis aux entreprises de réaliser leur objet. Étant entendu que tous les secteurs sont concernés, que ce soit le secteur industriel, l'immobilier, les services, le trading, c'est-à-dire l'achat et la revente, notamment l'exportation des matières premières, etc., etc. Donc, c'est vous dire que l'impact des activités du FSA est vraiment essentiel et très important pour nos États membres.
Est-ce que toutes ces performances financières que vous relevez aujourd'hui sont réalisées sans difficulté?
Nous sommes un garant. Naturellement qu'il y a des difficultés en ce sens que en finançant un projet, c'est un pari sur l'avenir que nous faisons. Donc, si nous nous donnons la garantie, c'est en prenant ce pari-là aux côtés des bailleurs de fonds. Et comme nous sommes intervenus en garantie, si jamais un projet se casse, le FSA est au front pour payer le montant en attendant que l'on puisse analyser quelles sont les possibilités de recouvrement. Donc, notre métier, c'est le risque. Et donc, ce risque, si nous le prenons, nous l'assumons. Donc, on nous appelle, on paye, suivant les modalités convenues. Et donc, c'est là où il y a la principale difficulté, parce que nous sommes obligés de procéder à une évaluation des projets et opérations qui sont soumis à notre appréciation pour l'accompagnement.
Cette 30e session s'achève. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan en termes de résolution forte prise au cours de ces 48 heures?
En 2024, c'est la Côte d'Ivoire qui fait partie des 21 États membres du FSA qui assure la présidence des organes. Le ministre de l'économie, Mme Kabanyalé, est la présidente du Conseil des gouverneurs. M. Tano Kobenan est le président du Conseil d'administration. Et c'est tout ça là pour prouver l'ambition que nous avons pour la Côte d'Ivoire. Le FSA a accepté de faire son Conseil d'administration ici. Nous avons quand même donné près de 200 milliards de garanties aux entreprises ivoiriennes pour pouvoir réaliser leur objet.
Merci beaucoup, M. Ali Guindo.
C'est moi. Merci beaucoup.
Ali Guindo, chef de la mission résidente du FSA, entendez, le Fonds de solidarité africain en Côte d'Ivoire, était l'invité de la rédaction et répondait aux questions de Jean-Claude Mabéa, un entretien qui met un terme à notre édition dont voici le rappel de l'essentiel. Célébration de la fête du travail, les centrales syndicales reçues hier à la primature ont mis en avant la question de la cherté de la vie ainsi que l'application du salaire minimum dans le privé et le secteur agricole. Le Fonds monétaire international va accorder 120 millions de dollars, soit 73 000 milliards et 485 millions de francs CFA de financement d'urgence au Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.